J'adore à faire avec Radio Okapi.
Oui, les enfants, bienvenue dans votre émission Bana Okapi Éducation.
Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à suivre Bana Éducation, votre magazine consacré à l'enseignement à distance par la radio. C'est un programme dédié à tous les élèves de la République démocratique du Congo, particulièrement aux apprenants des rattrapages scolaires qui se trouvent dans les zones affectées par les conflits. Ce programme vous est proposé du lundi au vendredi entre 16h et 17h heure de Kinshasa, samedi de 9h à 11h et dimanche de 10h à 12h. Grâce Mvozolo, c'est moi à la présentation de ces numéros. Deps Vita est à la technique, Sarah Soumbela est à la réalisation de ces magazines, la coordination est assurée par Christian Mapendano, sous la supervision de Jean-Marc Matwaki Mofelele Dijano. Bonjour, chers apprenants.
Bonjour, messieurs enseignants.
Bien, notre leçon d'aujourd'hui porte sur la pomme de terre, la patate douce et la banane plantain en botanique. Voilà, commençons par la pomme de terre. La pomme de terre est une plante cultivée par l'homme depuis plusieurs siècles. C'est un légume racine très populaire dans le monde entier. Elle est cultivée principalement pour ses tubercules riches en amidon. La pomme de terre est un aliment de base dans plusieurs pays. Elle se mange cuite, frite, bouillie, grillée ou transformée en farine. En plus de nourrir les hommes, elle sert aussi d'aliment pour certains animaux. La pomme de terre est cultivée dans nombreux pays, y compris en République démocratique du Congo. Elle appartient à la famille des solanacées comme la tomate et l'aubergine. Elle se cultive surtout dans les zones au climat frais et tempéré. La pomme de terre est originaire des hautes montagnes d'Amérique du Sud. Les anciens habitants du Pérou et de la Bolivie la cultivaient déjà il y a plus de 7000 ans. Les explorateurs espagnols l'ont introduite en Europe au XVIe siècle. Au départ, elle était utilisée comme plante ornementale à cause de ses fleurs. Peu à peu, les Européens ont découvert qu'elle était comestible et nutritive. Aujourd'hui, la pomme de terre est cultivée sur tous les continents. Elle est devenue l'un des aliments les plus consommés au monde. Elle a joué un rôle important pour nourrir les populations pendant les famines. En Afrique, il est arrivé grâce aux échanges commerciaux avec l'Europe. Dans certaines régions, il est appelé patate ou patate blanche. Chers élèves, vous devez savoir que la pomme de terre possède des racines souterraines. Ces racines secondaires portent des renflements appelés tubercules. Les tubercules est la partie que l'on mange. Les tubercules est riche en amidon et contient de l'eau et des vitamines. Il est recouvert d'une fine peau qui peut être jaune, brune, rouge ou violette. Sur chaque tubercule, il y a des petits points appelés yeux. Les yeux sont en réalité des bourgeons qui peuvent donner une nouvelle plante. La pomme de terre possède deux sortes de tiges qui sont la tige aérienne et la tige souterraine. Les tiges aériennes portent les feuilles et les fleurs. Les tiges souterraines s'appellent stolons et produisent les tubercules. Les feuilles sont grandes, vertes et découpées en plusieurs parties. Elles captent la lumière du soleil pour fabriquer la nourriture de la plante par photosynthèse. Les fleurs de la pomme de terre sont généralement blanches, roses ou violettes. Elles sont petites et en forme d'étoile. Elles peuvent donner des petits fruits ronds semblables à des tomates vertes mais toxiques.
J'adore apprendre grâce à Radio Okapi.
Poursuivons notre leçon, chers apprenants. Parlons à présent des différentes variétés de pommes de terre. Il existe plusieurs variétés de pommes de terre. Certaines sont adaptées à la cuisson, à l'eau. D'autres sont idéales pour les frites. D'autres encore servent à fabriquer de la purée. Et on distingue les variétés à peau jaune, rouge ou violette. Certaines variétés sont précoces et se récoltent tôt. D'autres sont tardives et se récoltent plus tard. Chaque variété a ses qualités de goût et de conservation. La pomme de terre pousse mieux dans un climat frais. La température idéale se situe entre 15 et 20 degrés Celsius. Elle a besoin d'un sol meuble, riche et bien drainé. Les sols argilo-sableux sont les meilleurs pour la pomme de terre. Les sols argilo-sableux sont les meilleurs pour la pomme de terre. Elle n'aime pas les sols trop humides. Elle exige beaucoup de lumière. L'eau est nécessaire, mais un excès d'humidité provoque la pourriture. Chers élèves, parlons maintenant des techniques de culture de la pomme de terre. 1. La préparation du sol. Dans la préparation du sol, il faut labourer les champs pour la meublir, puis enlever les herbes et les cailloux et ajouter du fumier ou de l'engrais chimique. 2. La deuxième technique est appelée la plantation. On plante les pommes de terre en utilisant des tubercules ou morceaux des tubercules. Chaque morceau doit avoir au moins un œil. Les rangs sont espacés d'environ 70 cm. Les jeunes plantes sont enterrées à 10 ou 15 cm de profondeur. La troisième technique, chers amis, s'appelle l'entretien. C'est le fait de biner et sarcler régulièrement pour enlever les mauvaises herbes. Ensuite, buter les jeunes plantes pour protéger les tubercules de la lumière. Arroser si nécessaire, surtout en période sèche. Surveiller les maladies et les insectes. La quatrième technique est appelée la récolte. La récolte se fait lorsque les feuilles jaunissent et se fanent. On déterre délicatement les tubercules pour ne pas les abîmer. Après la récolte, on laisse sécher les tubercules à l'ombre avant de les stocker. La pomme de terre est récoltée généralement après 3 à 4 mois. Chers amis, parlons maintenant des maladies et ennemis de la pomme de terre. Les mildious est une maladie fréquente qui attaque les feuilles et les tubercules. Les doryphores sont des insectes qui mangent les feuilles. La pourriture sèche et la pourriture humide endommagent les tubercules. Pour lutter contre ces maladies et ces ennemis, on utilise des traitements naturels ou chimiques adaptés. Il faut aussi pratiquer la rotation des cultures. La pomme de terre est utile pour l'alimentation humaine, l'alimentation animale et l'industrie. C'est un aliment riche en énergie. Elle contient des glucides, protéines, des fibres, des vitamines et des minéraux. Elle se prépare de plusieurs manières, frites par exemple, purée, bouillie, chips, gratin et j'en passe. Les tubercules abîmés servent à nourrir les porcs et les volailles. L'amidon des pommes de terre est utilisé dans la fabrication des papiers et des colles. La pomme de terre est une culture rentable, chers amis. Elle procure des revenus aux agriculteurs. Elle est vendue sur les marchés locaux et exportée. Elle crée des emplois dans la culture, la transformation et la vente. Parlons à présent de la conservation de la pomme de terre. Les pommes de terre doivent être conservées dans un endroit frais, sec et sombre. La lumière fait verdir les tubercules et les rend toxiques. Elles peuvent s'y garder plusieurs mois si les conditions sont très bonnes. N'ayez jamais mangé les parties vertes ou les petits fruits de la pomme de terre. Ces parties contiennent une substance toxique appelée solanine. Chers élèves, retenez que la pomme de terre est une plante très importante pour l'alimentation et l'économie. Sa culture demande des soins, mais il est rentable. Elle fait partie des aliments qui peuvent contribuer à la sécurité alimentaire.
J'écoute pour apprendre avec Radio Okapi.
Chers apprenants, à présent, parlons de la deuxième plante appelée la patate douce. La patate douce est une plante cultivée pour ses racines sucrées et comestibles. Elle est appréciée pour son goût sucré et sa richesse en énergie. C'est un aliment important dans de nombreux pays tropicaux et subtropicaux. La patate douce est consommée aussi bien par les enfants que par les adultes. On peut la manger bouillie, grillée, frite ou transformée en farine. Elle est différente de la pomme de terre, même si leurs noms se ressemblent. La patate douce est facile à cultiver et résiste bien à la sécheresse. Elle est une source importante des glucides et des vitamines. La patate douce est originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Le peuple précolombien la cultivait depuis plus de 5000 ans. Elle a été introduite en Afrique et en Asie par les explorateurs et commerçants européens au XVIe siècle. Elle s'est rapidement adaptée au climat. Aujourd'hui, chers amis, elle est cultivée dans plus de 100 pays. En Afrique, elle pousse bien dans presque toutes les régions. Elle est parfois appelée patate sucrée ou patate des Chines. La patate douce est devenue une culture de sécurité alimentaire dans plusieurs pays. Dans certaines cultures, elle joue un rôle dans les fêtes et traditions. Elle est cultivée aussi bien pour sa racine que pour ses feuilles comestibles. La partie que l'on mange est la racine tubéreuse. Les racines sont épaisses, charnues et riches en amidon et en sucre. La partie que l'on mange est la racine tubéreuse. Les racines sont épaisses, charnues et riches en amidon et en sucre. Elles peuvent avoir une peau de couleur brune, rouge, violette ou blanche. La chair peut être blanche, jaune, orange ou violette. Les racines sont formées à partir des tiges souterraines. La patate douce possède des tiges rampantes ou grimpantes. Elles peuvent atteindre plusieurs mètres de long. Les tiges portent des feuilles et donnent naissance aux racines tubéreuses. Elles sont parfois légèrement poilues. Et les tiges servent aussi pour les bouturages lors de la plantation. Les feuilles de la patate douce sont vertes et souvent en forme de cœur. Les feuilles sont comestibles et riches en vitamines et en minéraux. Elles sont utilisées comme légumes-feuilles dans plusieurs pays. Les fleurs sont en forme d'entonnoir, généralement violette ou blanche. Elles ressemblent aux fleurs des lipomées, une plante ornementale. Elles contiennent du nectar qui attire les insectes pollinisateurs. La floraison est rare dans certaines régions tropicales. Il existe de nombreuses variétés de patates douces. Certaines ont la chair blanche et sont moins sucrées. D'autres ont la chair orange et sont riches en vitamine A. Certaines variétés sont précoces et se récoltent entre 3 à 6 mois. Les feuilles de la patate douce jouent un rôle important dans la photosynthèse. Chers amis, je vous rappelle que la patate douce produit des fleurs en forme d'entonnoir ou des trompettes. Ces fleurs sont souvent des couleurs roses, violettes ou blanches. Elles attirent les insectes pollinisateurs comme les abeilles. La partie la plus importante de la patate douce est la racine tubéreuse, appelée tubercule. Cette racine stocke des réserves nutritives sous forme d'amidon, ce qui constitue l'aliment principal. La racine tubéreuse peut être de forme allongée ou ronde et sa peau varie du beige. Voilà, c'est la fin de la première partie de notre leçon, chers amis. Alors, retrouvons-nous juste après cette séquence musicale pour la suite.
Ariel, écoute-moi. Le monde humain, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont sous la terre. Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Toi, t'aimerais bien vivre sous terre. Bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours. Mieux tu ne pourras pas trouver. Sous l'océan, tout c'est bien mieux. Tout le monde est heureux sous l'océan. Là où ils bossent toute la journée, esclavagés, prisonniers. Pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Chez nous, les poissons se font de la flippe. Les vagues sont un vrai régal. Là où ils s'écaillent et ils flippent, à tourner dans leur bocal. Le bocal produit c'est l'extase chez le copain cannibale. Si monsieur poisson n'est pas sage,
il finira dans la poêle.
Oh non, sous l'océan, y a pas de gros bouillon, pas de soupe de poisson, pas de marmiton. Pour la tambouille, on leur dit non, sous l'océan, y a pas d'hameçon. On déambule, on fait des bulles sous l'océan. La vie est super mieux que sous la terre, je te le dis.
Tu vois les sturgeons et la raie se sont lancés dans le reggae.
On a le rythme, c'est de la
dynamique sous l'océan.
Piton au fluton, la carjoula,
la western, la basse, les rois du rap,
Mako, au saxon, le bon, au bango, le lieu est le dieu de la saule. La reine au dieu, mais le garçon au violon, les sols, rock'n'roll, le ton, garde le ton, le bas et le soir se marre et c'est bas, vas-y, souffle mon doudou.
Sous l'océan,
quand la
de Biggie, ça va dans sa suite. Ils ont le sable, ça c'est certain. Nous le jazz, bandé les copains. On a les crime jam pour faire une crime jam sous l'océan. Les limaces des mers au rythme d'enfer sous l'océan. Et les bigorneaux pour donner le tempo, c'est frénétique, c'est fantastique. On est dans le corps, pour que ça balance sous l'océan.
J'ai ça à l'école avec Radio Okapi.
Voilà, chers apprenants, parlons maintenant des conditions des cultures de la patate douce. La patate douce aime les climats chauds et humides. Elle pousse bien entre 20 et 30 degrés Celsius. La plante préfère les sols sablonneux, bien drainés et riches en matière organique. Les sols doivent être meubles pour permettre le développement des tubercules. La patate douce a besoin d'une humidité modérée, surtout au début de la croissance. Trop d'eau peut faire pourrir les racines. La multiplication se fait principalement par bouturage. On prélève des boutures des tiges. Ces boutures sont plantées directement dans les sols où elles s'enracinent et poussent rapidement. La patate douce peut aussi se multiplier par semis, mais très rare. Elle a un cycle de culture qui dure entre 3 à 6 mois selon les variétés. Après la plantation, la plante pousse, produit des feuilles, des tiges et des fleurs. Les tubercules commencent à se former sous terre, grossissent et sont prêts à être récoltés. La patate douce est une excellente source d'énergie grâce à son amidon. Elle contient des vitamines, fibres et des minéraux comme le potassium. Elle peut être consommée cuite, bouillie, en purée, grillée ou en farine. La culture de la patate douce est une source de revenus pour de nombreux agriculteurs. Elle est facile à vendre sur les marchés locaux. Chers élèves, vous devez également savoir que la patate douce aide à protéger les sols de l'érosion grâce à ses tiges rampantes qui couvrent les sols. Elle enrichit les sols avec ses déchets végétaux qui se décomposent. La patate douce peut être attaquée par des insectes comme les pucerons, la cochenille et certains insectes nuisibles. Des maladies fongiques comme la pourriture noire peuvent également affecter les tubercules. Pour lutter contre ces ennemis, il faut pratiquer une bonne rotation des cultures et utiliser des méthodes naturelles ou des pesticides adaptés. La récolte s'est faite généralement entre 3 à 6 mois après la plantation. On arrache délicatement les tubercules pour ne pas les abîmer. Après la récolte, on laisse sécher les tubercules à l'ombre pendant quelques jours. En plus de son usage alimentaire, la patate douce est utilisée pour nourrir les bétails. Certaines parties de la plante sont utilisées en médecine traditionnelle. La farine des patates douces peut servir dans la fabrication des gâteaux ou des biscuits. Retenez, chers élèves, que la patate douce est une plante très utile et facile à cultiver. Elle joue un rôle important dans l'alimentation humaine et l'économie locale. Apprendre à bien cultiver la patate douce permet de mieux gérer les ressources naturelles et de lutter contre la faim.
J'aime ça comme à l'école quand j'apprends avec Radio Okapi.
Chers amis, parlons à présent de la banane plantain. La banane plantain est un fruit très important en Afrique, en Amérique tropicale et dans d'autres régions du monde. Contrairement à la banane dessert, la banane plantain est généralement cuite avant d'être consommée. Elle fait partie de l'alimentation quotidienne des millions de personnes. Maintenant, chers amis, nous allons décrire la plante de la banane plantain. La banane plantain a une plante herbacée géante qui ressemble à un arbre mais qui n'a pas de bois véritable. La plante peut mesurer entre 3 et 7 mètres de hauteur. Elle possède un pseudo-tronc formé par l'enroulement des feuilles les unes autour des autres. Les feuilles sont grandes, longues et larges, souvent longues de plus de 2 mètres. Elles ont une couleur verte brillante et sont disposées en spirale autour du pseudo-tronc. Les feuilles peuvent se déchirer à cause du vent, ce qui est normal. La plante a un système racinaire peu profond, mais très étendu. Les racines absorbent l'eau et les nutriments du sol. Les fruits de la banane plantain poussent en grappes appelées mains. Chaque main contient plusieurs bananes appelées doigts. Les bananes plantain sont plus grosses que les bananes dessert, avec une peau plus épaisse et verte quand elles ne sont pas mûres. La banane plantain ne pousse pas à partir des graines, mais plutôt elle se reproduit par rejet. Ces rejets poussent à la base de la plante mère et peuvent être séparés pour planter d'autres bananiers. La plante pousse rapidement et produit des feuilles successives. Après environ 9 à 12 mois, la plante commence à produire une inflorescence ou une fleur. La fleur du bananier est appelée bourgeon floral ou cœur du bananier. La fleur produit des grappes de fruits. Les bananes plantains mûrissent en quelques mois et sont récoltées avant qu'elles ne deviennent trop mûres. Après la récolte, la plante meurt, mais de nouveaux rejets continuent à pousser pour former un nouveau bananier. Chers élèves, il est important de savoir que la banane plantain aime les climats chauds et humides. Elle pousse bien entre 20 et 35 degrés Celsius, avec beaucoup de pluie. La plante préfère un sol profond, fertile, bien drainé, riche en matière organique. Les sols volcaniques ou limoneux sont très favorables. La banane plantain a besoin d'une humidité constante. En période sèche, il faut arroser régulièrement. La production se fait par rejets prélevés autour de la plante mère. Ces rejets sont transplantés dans un autre endroit pour former une nouvelle plante.
j'adore apprendre grâce à Radio Okapi.
Chers amis, avant de boucler complètement notre leçon, parlons d'abord de l'importance de la banane plantain. Vous devez savoir que la banane plantain est une source importante des glucides ou d'énergie. Elle est consommée cuite, bouillie, frite ou transformée en farine. Elle contient aussi des vitamines, des fibres et des minéraux. La culture de la banane plantain apporte un revenu aux agriculteurs. Elle est vendue fraîche ou transformée en différents produits. La banane plantain protège les sols contre l'érosion grâce à ses racines et son couvert végétal. Elle peut être cultivée en association avec d'autres cultures. La banane plantain est récoltée quand les fruits sont bien formés et encore verts. La récolte s'est faite à la main en coupant la grappe avec un couteau ou une machette. Les fruits peuvent être conservés plusieurs jours s'ils restent verts et au frais. En plus d'être un aliment, la banane plantain sert aussi dans l'alimentation animale. Les feuilles des bananiers sont utilisées comme emballage naturel ou pour nourrir les animaux. Les fibres extraites du bananier servent aussi à fabriquer des cordes et des tissus. Retenez, chers apprenants, que la banane plantain est une plante essentielle dans l'alimentation des nombreuses populations. Elle pousse dans un climat chaud et humide. Il s'est reproduit par rejet et produit des fruits riches en énergie. Sa culture contribue à l'économie locale, protège l'environnement et offre plusieurs usages. Voilà, c'est la fin de notre leçon de séjour. Je vous remercie infiniment pour votre attention particulière.
J'écoute pour apprendre avec Radio Okapi.
Nous passons à présent aux exercices d'application. Prenez vos cahiers, chers amis, et écrivez. Numéro 1. La racine de la pomme de terre est appelée. La racine de la pomme de terre est appelée A. Pivotante. B. Fasciculée. C. Tubéreuse. D. Adventive. Et aucune bonne réponse. Choisis l'assertion correcte. Écrivez numéro 2. Quelle partie de la banane plantain est consommée, chers amis? Quelle partie de la banane plantain? Quelle partie de la banane plantain est consommée? A. La feuille. B. La racine. C. Les tubercules. D. Les fruits mûrs. Et la fleur. Choisis la bonne réponse. Numéro 3. Les bananiers se reproduisent par... Les bananiers se reproduisent par... A. Graines. B. Rejet. C. Feuilles. D. Fleurs. E. Greffage. Choisis la bonne réponse. Numéro 4. La patate douce est principalement multipliée par... La patate douce est principalement multipliée par A. Graines. B. Bouture des tiges. C. Tubercules. D. Rejet. Et aucune bonne réponse. Numéro 5 et enfin, la pomme de terre est récoltée généralement après combien de mois? La pomme de terre est récoltée généralement après combien de mois? A. 1 à 2 mois. B. 3 à 4 mois. C. 5 à 6 mois. D. 7 à 8 mois. Et 10 à 12 mois. Choisis l'assertion correcte. Bonne chance à tous.